Dominique Hervieux et Pierre Mercinez, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Divergence FM. À vous deux, vous représentez, c'est un peu trivial, mais la moitié du quatuor de direction, en fait, manque à l'appel Jeanne Gallois et Ophé Stecker. Racontez-nous comment il est né, ce quatuor, et comme on veut tout savoir, comment ça s'est passé cet entretien qui devait être quand même un peu fou. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler?
Alors,
beaucoup de choses.
En fait, le quatuor, il est né de d'amitié, on pourrait dire, et de convergence dans les valeurs, dans une forme de maturité aussi et d'expérience que les uns et les autres ont, et de se dire que en ajoutant toutes ces expériences, on devait arriver à créer quelque chose. On appelait ça un consortium de talents, c'est-à-dire chacun arrive avec sa force, et on est très très d'accord sur le socle commun de valeurs, la diversité, l'inclusion, évidemment la création et l'innovation, et puis qu'à la fois on soit tous très exigeant au niveau artistique et très généreux au niveau des habitants, au niveau démocratique, etc. On veut vraiment faire un lieu public, de service public pour l'art, ce qui n'empêche pas l'excellence, la recherche, l'exigence artistique. Donc c'est ça notre credo à tous les quatre.
Et puis il y avait cette croyance dans le fait que dans l'intelligence collective et dans la singularité chacun de nos parcours et la forme de complémentarité qu'il peut y avoir dans nos parcours, il y aurait un enrichissement de nos regards croisés et que cet enrichissement il serait propice au pilotage et à la bonne gestion d'un projet complexe comme celui de l'Agora. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre.
Et je vais vous donner une anecdote, parce que Ophé Stecker, qui n'a pas l'habitude de collaborer souvent, il nous a dit: je vous ai dit oui parce que j'étais sûre qu'on n'arriverait pas jusqu'au bout. Et il s'est fait piéger et il est là.
Alors justement, en fait, vous aviez quand même des candidats plus ou moins sérieux, des candidats rivaux à cet entretien. C'était en avril dernier, il me semble. À votre avis...
Le 10 avril, exactement.
C'est peut-être un peu difficile d'avoir ce genre de recul, mais qu'est-ce qui fait que vous avez remporté le...
Je pense que, et ça va être dans la continuité exacte de ce qu'on vient d'évoquer, je pense que ce qui a fait, en tout cas, un des éléments forts qui a convaincu le jury, c'est la cohésion et la force du collectif. Voilà, c'est je pense tout de suite ce qu'ils ont senti de complicité, de
d'enthousiasme aussi, on sent ça chez vous.
D'enthousiasme, oui, oui, oui. D'envie partagée, etc.
Et de circulation de la parole, ouais. C'est-à-dire on a tous répondu, chacun, et de façon pas déterminée dès le départ. Et donc du coup, on voit tout de suite des gens au travail, en fait, hein, des gens qui travaillent. Bon, moi, je dirais que c'est la joie de vivre qu'ils ont vue. Tout simplement.
Alors, vous êtes à peine 2 mois officiellement, en fait, de ce début, de cette prise de poste, cette prise de fonction, en fait. Quels sont les points forts et les points faibles de l'héritage Montanari-Rizzo?
Les points forts. Tu feras les points faibles? Non, allez, je commence. Non, mais je pense qu'il y a un point fort. En tout cas, moi, il y a une chose qui m'a énormément marqué quand on était présent lors de la dernière édition du festival, en juin et juillet dernier, c'est l'incroyable présence du public.
Et
un public très éduqué, effectivement. C'est constater que le travail qui a été fait de médiation, de formation du public, justement, comme vous dites, est incroyablement puissant ici. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui ont un regard, qui ont une culture chorégraphique. Et ça, je pense, c'est l'élément pour moi le plus fort, en tout cas sur lequel je me dis la construction de notre projet à venir, il peut se faire sur ces bases-là. Voilà, ça c'est l'élément premier.
Et moi je dirais, puisque j'ai dirigé la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse de Lyon, et je compare, en fait, la force ici historique, c'est la présence des chorégraphes. Mmh. Par exemple, à Lyon, on ne peut pas dire tel chorégraphe oui. vient de Lyon. Oui. Là, il y a Bagoué, une histoire incroyable, oui. Monnier,
une grande femme, fidélité.
Rizzo, avec ce virage, on pourrait dire, à un moment donné, qui a été très important dans la danse française, vers la performance. Et, donc, du coup, il y a une incarnation. Et ça, moi, je le sens vraiment, qui était aussi chorégraphe.
Bien sûr.
Et c'est des imaginaires qui ont irrigué, ce n'est pas une institution. Mmh. Et ça, on le sent avec tout le réseau qui s'est constitué autour. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'artistes locaux qui viennent de cette histoire-là, les Carnets Bagoué, enfin, beaucoup, beaucoup. Et ils sont encore là, pour beaucoup d'entre eux. Et ça crée un tissu aussi de contenu, d'enjeux, d'imaginaire,
de transmission.
D'utopie, de transmission. Ces gens-là ont continué à irriguer. Et c'est très, très différent. Donc, moi, je dirais ça, l'histoire. Bon, après, les points faibles, ça a été que, quand même, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'était trop séparé. Mmh. La dimension de production du Centre chorégraphique national et la dimension de diffusion et de Montpellier Danse. Donc là, bravo à ceux qui ont demandé à ce que cette fusion ait lieu, parce qu'on y croit vraiment. Et on croit qu'aujourd'hui, il faut que les étudiants d'Exerce puissent avoir une fenêtre sur le festival, que le festival s'enrichisse des acteurs locaux, que les amateurs, pendant toute l'année, puissent avoir accès aux œuvres. Bon, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inventer les liens entre tout ça, qui n'ont jamais eu lieu, en fait, historiquement. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Et c'est ça qui nous donne, je pense, une marge de souffle de progression, je l'espère, en faisant ça.
Et puis peut-être, je ne sais pas si c'est un point faible, mais en tout cas c'est un manque qui a été clairement énoncé à plusieurs endroits, une envie d'ouverture, simplement du lieu. Ce lieu, il est extraordinaire. Il est extraordinaire par sa nature même, architecturale, son histoire, etc. Il est extraordinaire parce qu'il est placé vraiment au cœur du centre-ville et qu'il doit maintenant s'ouvrir. Il y a une vraie demande, s'ouvrir déjà à la population, voilà, de proximité, s'ouvrir à la vie de quartier. Et puis, il doit s'ouvrir aussi, et là aussi, il y a une vraie demande, un vrai besoin, il doit s'ouvrir à tout l'écosystème de la danse sur la métropole à minima et au-delà, bien sûr. Et donc cet enjeu de l'ouverture, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui.
Alors, puisque vous me tendez la perche, je la saisis. Un des premiers projets dont vous avez parlé à la presse, c'est l'ouverture de la cour, en fait, qui a été... Vous étiez là quand elle a été nommée, la cour Jean-Paul Montanari.
Bien sûr.
Alors, expliquez-nous, comment vous allez la transformer, cette cour ?
En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est, on pourrait dire, une place publique de la danse. Vraiment, une place publique au sens grec, c'est-à-dire d'exercer,
une agora,
une vraie agora, d'exercer ses droits culturels, artistiques et de partage de l'art. Donc, on pense que c'est faisable, on pense qu'il y a tellement de pratiques un peu partout. La danse est quand même un des arts les plus pratiqués en France. Et donc, il faut qu'on arrive à faire un porte-voix en disant « Venez vous rencontrer librement, un peu, si on prend un exemple, évidemment, tout le monde pense au 104, ce qui est normal, ce qui est un peu, en effet, on pourrait dire le modèle. » Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des nuances dans les fonctions, mais toujours avec cette dimension d'ouverture, de générosité et de diversité. C'est-à-dire qu'il y a le lieu où s'exerce le maximum de liberté, c'est la cour, jusqu'au lieu où s'exerce, on pourrait dire, le maximum d'exigence, c'est l'opéra, le quorum et l'agora. Voilà. Mais tout ça cohabite et tout ça s'enrichit. Donc on veut avoir cette circulation entre une ouverture à tous. Évidemment, à partir du moment où on vient faire de la danse, enfin, c'est pas non plus
n'importe quoi,
hein, bien sûr. L'ouverture aussi aux artistes locaux, là aussi, il y a aussi un dialogue, une forme de contrat entre nous et les artistes de la programmation.
Après, en termes de modalités pratiques, ça veut dire quoi ? Alors, cette cour, en fait, c'est un ancien cloître. Cette cour, elle est placée entre deux rues, le boulevard Louis Blanc d'un côté et la rue Saint-Ursule de l'autre. Bah, déjà, c'est de l'ouvrir de ces deux côtés et d'avoir un espace qui soit traversant, déjà, ça. C'est-à-dire qu'il tout à coup vient s'inscrire dans la vie du quartier et que les gens puissent y passer, s'y arrêter, prendre le temps temps de rencontrer des amis, etc., etc. Et puis que la cour devienne elle aussi un endroit praticable. Aujourd'hui, cette cour, elle est en sable, un mélange de sable et de terre. Elle est difficilement praticable pour la danse. Donc on travaille à une échéance peut-être un peu plus lointaine, mais on travaille avec les services de la métropole, du patrimoine, mais aussi avec les services de l'État, puisque ce bâtiment est inscrit à la liste des monuments nationaux, des monuments historiques, pardon. Voilà, c'est qu'à terme, il y ait peut-être un revêtement sous forme d'un pavage qui rendra cette cour vraiment praticable à la danse et que puisse s'y côtoyer dans une démarche à la fois citoyenne, d'émancipation, d'appropriation de ce lieu, les pratiques amateurs, les esthétiques différentes, mais aussi les endroits d'exigence et d'excellence artistique.